ces derniers sont-ils juste un peu trop optimistes?
Je pense qu'il y a, on a le droit, enfin les démocrates ont le droit d'être optimistes pour plusieurs raisons. D'abord parce que le bilan de Joe Biden, c'est un bilan qui est tout de même extraordinaire, qui peut être comparé à celui de Roosevelt par exemple. Il y a eu des accomplissements extraordinaires tels que par exemple la loi sur l'infrastructure, il y a eu également la de la dette pour les étudiants, il y a eu aussi des lois contre la haine envers les Asiatiques par exemple, il y a eu également un allègement des frais médicaux je pense par exemple en particulier aux médicaments contre le diabète par exemple qui était exorbitant, dont le prix était exorbitant et qui maintenant ont un coût raisonnable. Il y a donc s'enchaîne.
Mais est-ce que tout cela ne risque pas d'être un peu éclipsé, comme on l'a vu dans le reportage de Yacouba, cette question de l'inflation qui est là aussi?
Alors la question de l'inflation est persistante, mais c'est une inflation qui est, si vous voulez, globale, puisqu'elle est due en partie à la rupture de la chaîne d'approvisionnement, et ceci est dû en partie à la guerre en Ukraine, mais aussi à la façon dont le Covid est géré en Chine, puisque beaucoup de villes chinoises sont carrément bloquées, fermées. Voilà.
D'accord. Alors, Jean-François Cesnec, lorsque Mitch McConnell, le chef de la minorité républicaine au Sénat, dit que son camp n'est plus sûr aujourd'hui de contrôler la Chambre haute en novembre, vous pensez qu'il s'agit, disons, d'une stratégie pour remobiliser ses troupes, ou y a-t-il de réelles inquiétudes, selon vous, chez les républicains?
Je pense qu'il y a les deux. C'est bien sûr, ça va certainement remobiliser les troupes républicaines, mais il ne faut pas oublier, à mon avis, que les républicains sont leurs principaux ennemis. les républicains essayent de supporter Trump à n'importe quel prix, parce que ça leur donne des avantages avec la base républicaine, peut-être 30% de la population, mais pas plus. Et ça, c'est un gros problème, parce que est-ce que les indépendants qui finalement contrôlent les élections aux États-Unis, est-ce que les indépendants vont être vraiment mécontents de ce que font les républicains pour défendre Trump, et ou bien est-ce que ils vont tous se mettre derrière les candidats républicains? Si on voit ce qui s'est passé dans l'Alaska hier, c'est pas une bonne présentation et c'est pas une bonne chose pour les républicains, parce que Madame Palin, qui est supportée par Trump, a perdu assez largement même, et je pense que c'est pas très très bon pour les
républicains. Vous voyez un effet de cette perquisition, de la manière dont ils gèrent cette question dans l'espace public? Leur support est inconditionnel?
Oui, absolument. Et je pense que là, avec ce qui s'est passé en particulier hier et avant-hier, je pense que les gens vont beaucoup se poser de questions sur la raison pour laquelle Trump avait gardé ses documents et avait essayé, enfin, lui ou ses associés avaient essayé d'empêcher le FBI de trouver des documents au départ. Et ça, ça peut être très très mauvais, parce que ça a une odeur de trahison presque pour beaucoup de gens aux États-Unis.
Et vous, René, qu'est-ce qui semble peser le plus sur la balance entre le débat sur l'avortement, l'annulation partielle de la dette estudiantine, pour certains en tout cas, ce qui était une promesse électorale, ou les démêlés de Trump avec la justice?
Écoutez, je crois que la question des menaces générales sur l'avortement, réel déjà d'un point de vue partiel, a été ces menaces sont déterminantes, parce que je crois que ça a pas mal mobilisé les démocrates. On a vu ce qui s'est passé déjà dans un ou deux États en termes de mobilisation avec impact électoral. Mais je crois également, Arman, que les succès législatifs de Biden ont été importants. Marilyn en a parlé un peu, la relance de l'économie pour récupérer après pendant la période de Covid, ensuite les infrastructures, maintenant la fameuse loi sur l'inflation, de réduction sur l'inflation, qui est plus une loi pour soutenir les efforts des familles, les efforts des foyers en matière médicale et la question du combat contre le changement climatique, une question de contrôle de l'inflation. Mais ces trois lois combinées, Abdourahmane, ça fait 4 000 milliards de dollars, 4 trillions de dollars. C'est sans précédent. Et ça, je pense que ces victoires-là permettent à Biden de refaire un peu surface. Il était à plus de 50% de vote défavorable et maintenant il est à moins de 40%. Donc sa cote de popularité remonte de manière relativement significative.
Et Marilyn, en tant qu'enseignante, professeure à l'université, est-ce que vous croyez que la dette estudiantine, qui est un gros problème dans ce pays, peut être déterminante en novembre? On a vu que l'annonce de Biden est critiquée quand même aussi bien par les républicains que par certains démocrates qui la jugent insuffisante.
Alors certains démocrates, évidemment, surtout ceux qui sont le plus à gauche, ils pensent que ce chiffre, 10 000 dollars, est trop bas. Alors c'est peut-être, il y a peut-être là donc matière à discussion. Toutefois, c'est la première fois qu'il y a une véritable volonté d'éliminer ou de diminuer la dette. Donc ce sera de toute façon apprécié par le public en général. Ça, il n'y a pas de doute à cela. Alors que cette loi soit peaufinée, soit améliorée par la suite et qu'il y ait d'autres possibilités de réduction, c'est peut-être un projet qui sera à l'avenir revisité. Mais en tout cas, c'est une initiative qui va justement faire en sorte que le public soit plutôt du côté des démocrates, en tout cas chez les jeunes et même les moins jeunes. Il y a énormément de personnes qui ont déjà un certain âge mais qui ont encore des dettes
à payer
du point de vue pour leur éducation.
Et Jean-François Cesnec, en tant qu'économiste, vous pensez que les républicains ont de bons arguments face à l'électorat sur cette question de la dette, en appuyant un peu sur le message lié au risque d'inflation et même à l'injustice un peu pour ceux qui soit ne sont pas allés à l'université ou n'ont pas, en tout cas n'ont pas de dette?
Il est certain que l'endettement des étudiants américains est absolument ridicule. C'est quelque chose qui n'est pas supporté par la population en général. Le coût de l'éducation est beaucoup trop cher, ça crée des problèmes pour tout le monde. Et ça, effectivement, je pense que on peut pas y faire grand-chose, sauf ce que le président Biden est en train de faire en ce moment. Et donc, je suis d'accord avec Marilyn que ça va lui donner un gros avantage quand même, surtout parmi les plus jeunes qui commençaient à laisser un peu tomber la politique. Donc, je pense que c'est une bonne chose finalement.
Mais il y a ce qui crie à l'injustice aussi. Vous pensez que c'est un débat ou c'est un faux débat?
C'est un peu un faux débat au sens où les gens ont quand même des dettes qui sont beaucoup plus élevées en général que les 10 000 dollars qu'ils vont recevoir. Mais enfin, c'est mieux que rien, effectivement. Et donc, ça limite un peu l'injustice. Mais il est certain que ça va aussi créer, ça va aider ça va rendre le combat contre l'inflation un peu plus difficile parce que ça donne plus d'argent aux gens en général qui vont le dépenser, ce qui fait monter les prix. Donc il y a un petit peu des deux côtés et les républicains vont essayer de prendre avantage de ça, mais ils vont pas forcément réussir.
D'accord. Et René, après les aides financières directes aux familles pendant la pandémie, ceux qui ont contracté des dettes pour aller à l'université pourraient avoir une annulation de 10 à 20 000 dollars de leur emprunt. Ce n'est pas un peu risqué pour Biden de se voir peindre comme un socialiste, un terme qui fait toujours peur à une partie de l'électorat?
Oui, bon, c'est vrai qu'il y a toujours quelques... comment dire, j'ai failli utiliser un mot un peu...
C'est un peu provocateur, mais c'est un débat que j'entends, en fait.
Voilà, un peu provocateur pour dire quelques agités. Mm-hmm. Oui, il y en a tous qui le diront. Mais vous savez, on peut accuser tout le monde d'être socialiste, sauf Biden, parce qu'au fond, même dans le spectre d'analyse politique des démocrates, il est plutôt du centre droit chez le côté démocrate. Donc il est très loin de AOC ou de Bernie Sanders. Donc je ne pense pas que ça puisse marcher, ça, Abdurrahman.
Alors on va aller aux commentaires Facebook de nos téléspectateurs. Alphonse Mbaki à Kinshasa qui nous dit: toute victoire est bonne à prendre pour les démocrates, et ces dernières semaines le président Joe Biden en a décroché quelques-unes, à commencer par le vaste plan de réforme destiné notamment à faire baisser les prix des médicaments, lutter contre le réchauffement climatique ou encore soumettre les grandes entreprises à plus d'impôts. Et puis il y a Marcelin Kofi à Abidjan nous dit: si les démocrates perd le contrôle du Congrès en novembre, le président Joe Biden risque de faire un seul mandat comme son prédécesseur Donald Trump, mais ces élections de mi-mandat s'annoncent très ouvertes entre démocrates et républicains. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous.
C'est vous.
C'est nous.
C'est vous et nous.
Pour la seconde partie de Washington Forum, et je rappelle nos invités ici à Washington: Marilyn Sifok, professeur de langue à Howard University, Annapolis dans le Maryland, Jean-François Seznec, économiste, analyste politique à Atlantic Council, et à Punta Cana, en République dominicaine, René Lec, consultant et analyste politique. Alors, Marilyn, le mois de septembre donc marque la rentrée politique et la dernière ligne droite avant les élections de novembre. Certains candidats démocrates ne voulaient pas du tout s'afficher avec Joe Biden à cause de sa chute dans les sondages il y a quelques mois. Il a marqué des points depuis. Vous le voyez très présent dans la campagne. Et qu'est-ce qu'il peut apporter à ces candidats?
Alors, il peut apporter beaucoup aux candidats parce que son bilan, en fait, est excellent. C'est un bilan que beaucoup de présidents américains devraient envier, puisque, comme nous l'avons précédemment dit, il a ajouté 10 millions d'emplois, ce qui est vraiment un record. Il a également, il ne faut pas oublier également qu'il y a eu la baisse du prix de l'essence, ce qui n'est pas peu, parce qu'on avait l'impression à un moment donné que le prix de l'essence continuerait de flamber. Mais il a aussi voulu rappeler à l'ordre à un moment donné les compagnies pétrolières, parce que leurs profits étaient exorbitants, et donc il fallait absolument endiguer la chose. Et donc il y a cette victoire qu'il ne faut pas oublier également. Et du point de vue social, il a fait passer cette loi contre la haine contre les Asiatiques, parce que il y a eu énormément d'attaques des Asiatiques, et c'est un certain électorat sera évidemment très reconnaissant à ce propos, puisque
mais 40% aussi, ce n'est toujours pas fameux. C'est mieux que 38-37%, mais 40% de taux de popularité.
Au moment des élections, je pense que tout son bilan, ce qui est vraiment excellent, ne pourra que jouer en sa faveur. Il y a énormément d'avancées aussi du point de vue, comme nous l'avions dit, des médicaments qui coûtent moins cher. Donc les Américains, dans leur propre porte-monnaie, ils voteront pour leur propre porte-monnaie, et leur porte-monnaie se trouve beaucoup plus allégée, du moins beaucoup plus allégée que précédemment.
Alors, Jean-François Cesnec, donc, avec ce que Marilyn vient de dire, on va à coup sûr vers une présence très remarquée du président Biden, mais aussi de son prédécesseur, Donald Trump, lors de cette campagne. Quelle lecture en faites-vous?
Ben écoutez, je pense qu'effectivement, Biden va se montrer un peu plus parce que sa popularité remonte, et comme le disait justement Marilyn, il a eu beaucoup de victoires ces temps derniers. Et en plus, on voit que Trump, beaucoup de candidats ne sont plus si excités à se mettre du côté de Trump et à parler positivement de Trump avec ce qui se passe sur les problèmes du FBI avec le président, etc. Donc ça, c'est un avantage pour Biden, effectivement. Et si je peux me permettre, il y a peut-être une chose, là je ne suis pas entièrement d'accord avec Marilyn, c'est sur le prix de l'essence, parce que le prix de l'essence est moins dû au profit des compagnies qui en font beaucoup trop peut-être, mais est plutôt dû à la guerre à l'Ukraine en ce moment, et ça on n'en a pas parlé, mais la guerre de l'Ukraine est quelque chose sur laquelle on n'a pas vraiment contrôle, et le président n'a pas vraiment de contrôle, et le coût de l'essence pourrait recommencer à monter, mais même au niveau d'actuel, il est quand même très élevé. Alors il faudrait pouvoir faire tomber les prix du pétrole à peut-être $80 le baril, mais pour le moment il est encore à 95, entre 95 et 100, et ça c'est encore trop pour l'inflation.
Le consommateur
américain, oui.
D'accord. Et René, est-ce qu'on peut parler de duel par procuration entre Biden et Trump lors de ces élections de mi-mandat, et qu'est-ce que cela vous inspire?
Oui, je ne sais pas trop du côté des démocrates par rapport à Biden, bien que c'est sûr que maintenant il va en campagne et un certain nombre de candidats sont intéressés de l'avoir à leur côté, mais ça ne va pas être peut-être le plus significatif. À mon avis, politiquement, je pense que le plus significatif, c'est que la majorité des candidats républicains sont des candidats qui contestent, qui sont dans le déni par rapport à la victoire de Biden. Donc, ils sont ce que l'on appelle un peu des Trumpistes, des candidats soutenus par Donald Trump. Et c'est là où la difficulté majeure va se présenter. Est-ce qu'ils auront suffisamment de voix d'indépendants ou même de certains démocrates, de certains républicains modérés? On en doute fortement. Et je pense que c'est là où où le jeu politique va se jouer aux élections de mi-mandat à Borman.
Et justement, René, vous pensez que Biden et les démocrates vont appuyer un peu sur ce message de la lutte pour la protection de la démocratie? C'est un message gagnant, vous pensez, ou bien c'est des sujets comme l'inflation vont prendre le dessus?
Bon, du côté républicain, ce sont les questions qu'ils vont insister sur l'inflation. Du côté démocrate, effectivement, les menaces sur la démocratie, sur la démocratie, les institutions démocratiques dans ce pays, mais surtout la question des droits humains, notamment des droits à l'avortement pour les femmes. Pratiquement tous les jours, Biden lui-même en parle. Et je crois que c'est là, effectivement, que les républicains vont, les démocrates vont insister. Mais à Blorman, ils devront faire très attention, parce que aussi, et je sais que c'est des discussions internes au sein des démocrates, il faut faire attention, trop attaquer Donald Trump ou trop se focaliser sur lui peut être aussi constituer un danger politique. Donc il y a un juste milieu qu'il faudra trouver à mon avis.
Et vous, Marilyn, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui va être le plus déterminant pour les électeurs entre ce que Joe Biden appelle le combat pour la démocratie et les questions comme l'inflation, l'économie? Vous évoquiez avec Sesnek tout à l'heure la question du carburant.
Le fait que les républicains aient vraiment essayé d'éliminer Roe v. Wade, je pense que ce sera très déterminant pour l'électorat féminin. Je pense qu'il y a énormément de frustration au niveau de l'électorat féminin à cause du Roe v. Wade, que les républicains ont osé toucher. Donc je pense que cette question sociale sera déterminante. La démocratie, c'est très important en ce moment parce que vous avez un combat pour la démocratie à l'Est, en Ukraine, et vous avez le combat pour la démocratie à l'Ouest. Et donc la perquisition au domicile de Donald Trump montre bien qu'il y a un problème. On ne peut pas à la fois dire qu'on voulait garder les documents juste pour les compulser, pour les étudier, et en même temps dire qu'on a voulu garder ces documents, que le président Trump a voulu garder ces documents pour justement les déclasser, les déclassifier. Donc tout ça, ce n'est pas très cohérent. Le discours côté Trump vis-à-vis des documents n'est pas du tout cohérent. Et à un moment donné, je pense que l'électorat, même ceux qui sont très pro-Trump, ils vont se rendre compte qu'il y a là un problème et que ce problème peut mettre en péril la démocratie.
Jean-François Sesnek, vous êtes d'accord sur cette question de la perquisition? On voit quand même toujours que beaucoup de républicains font bloc autour de Trump, même si certains candidats peut-être... Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être déterminant.
Oui, je pense que Marie a tout à fait raison. C'est vraiment un risque pour la démocratie. Je pense que c'est vu par beaucoup de gens comme ça. Bien que une grosse partie des républicains fassent bloc avec Trump, comme vous dites, mais je pense que le bon sens national va prendre le dessus, parce qu'il est évident qu'il n'y a aucune raison de garder ces documents et que c'est tout à fait dangereux pour la démocratie et pour le pays. Donc je pense que ça va leur coûter très très cher en fait.
René, pour terminer sur cette même question.
Oui, écoutez, ça va peut-être avoir un impact, bon, pas nécessairement sur la base des républicains qui, je pense, soutiennent Donald Trump. Il y a même quelques républicains modérés qui considèrent que ce n'est pas une question déterminante. Oui, je pense que ça aura peut-être un impact sur les élections, mais je pense que ça restera relativement minime.
Ce qu'on appelle les pocket issues, les questions, disons, personnelles, les questions de dépenses personnelles vont être plus déterminantes, cette perquisition. OK. En tout cas, merci beaucoup. Et je ne voudrais pas refermer cette édition sans un mot sur la mort de celui qui a scellé il y a 3 décennies le sort final de l'ancien URSS. Mikhail Gorbatchev est mort à 91 ans. Certainement qu'on aura l'occasion de revenir sur son héritage 30 ans après qu'il a quitté le pouvoir. Voilà, merci. Fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.